Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre balade musicale. Je suis ravi de vous retrouver en ce samedi matin. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. On est ensemble jusqu'à midi, comme tous les samedis, sur IDFM Radio. Ce matin, le romantisme est à l'honneur. Nous aurons en effet la très grande chance de nous entretenir avec le pianiste Yves Henry, qui nous parlera de sa très riche actualité. Il vient d'enregistrer l'intégrale des Nocturnes de Frédéric Chopin sur un piano playel historique. Son double album vient de paraître sous le label Soupir Édition. Par ailleurs, il nous révélera en avant-première les temps forts de la programmation de l'édition exceptionnelle des 60 ans du Nohant Festival Chopin, dont il est le président. Mais, pour patienter avant cet été, Yves Henry nous mettra l'eau à la bouche avec le concert de lancement du festival qui se déroulera le mercredi 11 mars à 19h à la salle Cortot avec la participation d'une pléiade d'artistes.
Balade musicale sur IDFM Radio.
Bonjour Yves Henry.
Bonjour.
Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre balade musicale sur IDFM Radio. Admis au Conservatoire de Paris, vous bénéficiez de l'enseignement de Pierre Sancan et vous vous perfectionnez auprès du grand Aldo Ciccolini. Vous sortez du conservatoire, lauréat de 7 premiers prix, piano bien sûr, mais aussi musique de chambre, harmonie, contrepoint, fugue, accompagnement et direction de chant. Et vous remportez le premier grand prix du concours international Robert Schumann à Zwickau, ville de naissance du compositeur. Vous vous produisez depuis, en récital ou avec orchestre, dans la plupart des pays d'Europe, en Chine et au Japon et aux États-Unis, d'où vous revenez d'ailleurs de New York. Vous êtes invité dans de très nombreux festivals étrangers et français, comme la Roque d'Anteron, le festival Chopin à Bagatelle, le festival Estival de Paris et beaucoup d'autres. Vous enseignez l'harmonie au CNSM de Paris et le piano et la musique de chambre au CRR de Paris. Vous êtes régulièrement invité aux États-Unis, au Japon et en Chine pour des concerts et des masterclass dans les universités. Depuis 2011, vous êtes le président du Nohant Festival Chopin au domaine de Georges Sand à Nohant, dans le département de l'Indre. Et depuis l'an dernier, vous dirigez le nouveau concours international de piano Chopin Playel, joué sur instrument Playel, dont vous êtes ambassadeur, qui sera organisé au mois d'août à Nohant. Votre discographie comporte des enregistrements de Robert Schumann, de Franz Liszt, de César Franck et bien entendu de Frédéric Chopin, dont vous êtes un éminent interprète. Après la chambre enchantée et les valses dont vous étiez venu nous parler à ce micro, vous venez de publier l'intégrale des Nocturnes, enregistrée sur un piano Playel 1837. Yves Henry, depuis quand poursuivez-vous l'exploration de l'œuvre de Chopin sur piano moderne et aussi sur piano d'époque ?
Alors tout a commencé en 1999, ou un tout petit peu avant, mais en tout cas c'est là que j'ai commencé véritablement à comprendre qu'il y avait un intérêt particulier à relire les partitions de Chopin à partir de la connaissance du piano qu'il utilisait à l'époque. Parce que le piano, il faut bien préciser à nos auditeurs que le piano de l'époque de Chopin ressemble au piano moderne, mais il est très différent, il n'y a pas de cadre métallique en fonte pleine, et donc les cordes sont beaucoup moins tendues, la mécanique est beaucoup plus sensible, le son est moins puissant. Donc tout cela a évidemment une répercussion sur la notation de Chopin, qui en plus indiquait toutes les pédales. Donc j'ai compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose d'assez extraordinaire à relire les partitions en connaissant l'instrument. Alors l'instrument, j'avais la chance d'en avoir un sous la main parce qu'on avait quelques années auparavant restauré un piano de l'époque de Chopin, un Playel de 1837, celui-là même qui est dans les enregistrements que je fais. Et grâce à cet instrument, j'ai exploré véritablement, on peut dire, les potentiels de ces instruments complètement différents. Et donc j'ai essayé de pénétrer plus avant. Finalement, c'est le piano lui-même qui m'a guidé pour découvrir énormément de choses, un rapport nouveau au son, bien sûr, un rapport à ce son chantant que Chopin voulait toujours. Il parlait du bel canto, il adorait Bellini, il voulait tout le temps que le piano chante. Et ça, c'est une caractéristique de ces pianos-là, de ces playels de l'époque de Chopin, c'est qu'ils ont justement une voix qui chante parce que le son dure très longtemps et il est beaucoup moins percutant que le son des pianos d'aujourd'hui.
Il faut dire aussi que les salles de concert, nos salles de concert d'aujourd'hui n'existaient pas à l'époque.
Tout à fait, vous avez raison, parce que le concert de l'époque, c'est plutôt un concert dans un salon. Celui qui va amener le piano en dehors des salons et donc exiger des grandes salles, c'est Liszt, qui invente le récital. Et donc, à partir de là, c'est vrai, il va falloir des pianos plus grands, plus puissants, et il va falloir chercher, et il faudra à peu près une dizaine d'années, entre 1840 et 1850, pour qu'apparaisse le piano moderne, que Chopin n'a donc jamais connu, puisque lui-même, il est mort en 1849.
Revenons maintenant aux nocturnes que vous venez d'enregistrer. Qu'est-ce qui caractérise ce genre particulier, Yvan Rie ?
Alors, le genre du nocturne qui est donc surtout une sorte de pièce qui d'une durée assez intermédiaire, environ 5-6 minutes en général, quelquefois moins, quelquefois plus, mais autour de cela, et c'est un univers entier qui est beaucoup dédié au chant. C'est, au départ, le nocturne, c'est une pièce comme une sorte de romance, on pourrait dire, mais la romance en elle-même était un genre, le nocturne est un autre, il est un petit peu plus développé, et il a surtout une caractéristique principale, donc qui est celle d'avoir une mélodie chantée et un accompagnement. Mais bien évidemment, ce système assez simple, on peut dire, d'une mélodie accompagnée, mais jouée pour la mélodie par la main droite et pour l'accompagnement par la main gauche, est quelque chose qui va évoluer beaucoup avec l'œuvre de Chopin, puisque Chopin va s'y consacrer toute sa vie, et donc il va faire un petit peu évoluer ce style en y apportant beaucoup notamment de recherches dans le domaine de l'harmonie, dans le domaine du son et dans le domaine du contrepoint. C'est-à-dire que là où il y avait auparavant une mélodie et un accompagnement, eh bien il va y avoir des contre-chants, il va y avoir un accompagnement dans lequel viennent se glisser aussi des parties qui s'entrelacent avec la mélodie. Donc ça devient vraiment quelque chose de très élaboré et c'est ce qui est passionnant justement dans une intégrale comme celle-là, c'est qu'on voyage au travers de l'évolution même que Chopin a donné à ce style de pièce.
Alors, on va débuter avec les premiers nocturnes que Chopin a composés, c'est-à-dire les nocturnes de l'opus 9. Alors, Yvan Rie, dans vos notes, je dois dire très passionnantes de présentation, pour le lecteur, pratiquement, le lecteur va tout savoir sur les nocturnes de Chopin.
Oui, j'aime bien donner quelques clés qui permettent à la fois de comprendre bien sûr l'univers dans lequel chaque nocturne évolue, et vous savez que dans la musique, ce sont les tonalités qui déterminent d'une façon très importante l'atmosphère générale d'une pièce, et il y a toujours une tonalité principale dans laquelle le nocturne commence et termine. Et puis au travers de l'évolution de la pièce elle-même, il y a des tonalités nouvelles qui apparaissent, et c'est là où Chopin a justement quelque chose de tout à fait nouveau qu'il apporte. Ce sont ces couleurs qui changent avec les tonalités et qui sont souvent des tonalités très éloignées, car Chopin a inventé des systèmes qui permettent de passer de l'une à l'autre sans que l'on s'en rende compte et sans que ce soit annoncé à l'avance, comme le faisait un peu Schubert. Là, c'est extrêmement subi et c'est toujours une surprise merveilleuse. Et ces couleurs qui interviennent au cours de chaque nocturne et qui changent l'atmosphère sont un de leurs attraits aussi.
Alors, ces très belles couleurs, on va les entendre dans le nocturne numéro 2, opus 9, en mi bémol majeur. Sous vos doigts, Yvan Rie. Nocturne numéro 2 de Chopin par Yves Henry, notre invité en balade musicale sur IDFM Radio. Pour ces nocturnes, vous jouez, on l'a vu, un Pleyel 1837 sur lequel Chopin aurait lui-même pu jouer. Yves Henry.
Tout à fait, et d'ailleurs il est même probable qu'il ait joué sur cet instrument. Ça serait un peu long à raconter, mais c'est un instrument qui a été dans une propriété où Chopin était venu, donc il est probable qu'il ait posé les mains dessus. Et cet enregistrement a été réalisé dans un salon, lui aussi, un peu à l'image de ces salons dans lesquels jouait Chopin. C'est aussi ce qui donne cette intimité, ce rapport au son, dans un environnement qui correspond à celui de l'époque. Et je dois dire que ce sont aussi des enregistrements réalisés en public. C'est-à-dire, ce ne sont pas des concerts publics, ce sont véritablement des enregistrements, mais avec du public. Alors, on ne l'entend pas parce qu'il est très discret, mais il y a un public et ça crée un lien aussi particulier. Je voudrais ajouter un mot sur l'instrument, puisque vous avez parlé de ce Pleyel 1837. On l'a aussi spécialement, je dirais, adapté pour cet enregistrement de nocturne, et il a eu pour l'occasion, on a changé les têtes de marteau et les feutres pour retrouver exactement les feutres de l'époque, la densité du feutre, ce qui donne ce son particulièrement velouté, moelleux, que Chopin aimait, et qui peut aussi dérouter un petit peu les gens qui sont habitués au piano moderne, qui est par essence extrêmement brillant, lumineux, et dont le son porte très loin. Là, on est dans quelque chose qui chante de plus près, qui est avec cette caractéristique qu'aimait Chopin, c'est-à-dire ce son de proximité qui n'est pas du tout projeté, mais qui rayonne.
Mais en écoutant votre disque, on se croirait véritablement transporté dans l'un de ces salons du noble faubourg, du faubourg Saint-Germain, où Chopin s'est produit entouré de ses belles écouteuses, comme par exemple dans le salon de l'ambassadeur d'Autriche.
Oui, et c'est aussi l'occasion, et vous avez raison de le souligner, d'entendre la musique de Chopin un peu différemment, pas seulement parce que le volume sonore est moins important, mais aussi parce qu'il y a une lisibilité du message qui est plus grande que sur le piano moderne. En deux mots, le piano moderne qui est très très puissant est aussi très égal, c'est-à-dire que toutes les notes ont la même qualité, et sur le piano de l'époque de Chopin, c'est pas le cas. Selon les registres, le son diffère. Ce qui veut dire que tout ce qui est lié au contrepoint, tout ce qui est lié à l'élaboration du son et de sa richesse harmonique, eh bien, prend une autre dimension, car il va capter très très bien le microphone, justement, car les micros, eux, ils sont très très sensibles, ils sont de proximité également, et je pense que c'est quelque chose qui aussi permet de mieux se rendre compte de ce que pouvait être la sonorité de piano dans ces salons.
On est vraiment dans l'intimité, et le rêve est très proche.
Oui, et je crois que la dimension du rêve, c'est une des dimensions essentielles dans les nocturnes, même si vous l'avez constaté, évidemment, il y a très souvent un contraste important dans les nocturnes entre une première partie, quelquefois chantante, rêveuse, et une deuxième partie qui devient tout à coup plus animée, plus dramatique. C'est un des systèmes de composition que Chopin a beaucoup utilisé et qui est très présent dans les nocturnes. Cette opposition entre des parties rêveuses qui sont évidemment l'atmosphère à laquelle on s'attend dans un nocturne, et puis des parties beaucoup plus animées, beaucoup plus révoltées, beaucoup plus dramatiques, qui viennent souvent au centre de l'œuvre.
Avançons un petit peu, si vous le voulez bien, Yves Henry, dans la carrière de Chopin, avec les nocturnes de l'opus 27. Et vous écrivez dans vos notes de présentation que ces deux nocturnes constituent le centre de gravité, le cœur même de l'ensemble des nocturnes.
Oui, alors moi je trouve, parce que à partir de là s'établit justement cette espèce de richesse incroyable dans l'écriture. Alors là c'est plutôt une question d'écriture pianistique que Chopin élabore de plus en plus, car on a toujours l'idée, on se représente Chopin bien sûr avec un style un peu inimitable qu'on reconnaît immédiatement, et on se dit dans le fond sa musique repose tout le temps sur les mêmes fondamentaux, bien sûr, mais en même temps elle évolue beaucoup dans son écriture. Il faut savoir qu'il n'a écrit quasiment que pour le piano, même s'il a écrit un peu pour le chant ou le violoncelle, que pour le piano, et donc il a exploré d'une manière extrêmement attentive et extrêmement fouillée toutes les capacités de résonance de l'instrument, et en particulier en utilisant la pédale qui libère les harmoniques de toutes les cordes, il utilise cet instrument-là pour créer des résonances, des phénomènes acoustiques que Debussy plus tard va reprendre notamment bien sûr dans ses préludes, mais dans beaucoup d'autres choses, et qui font du piano un instrument tout à coup extrêmement riche qui se suffit à lui-même.
Eh bien, écoutons maintenant le nocturne numéro 8, opus 27, numéro 2, en ré bémol majeur par notre invité Yves Henry. C'était le Nocturne, opus 27, numéro 2 de Chopin, par le pianiste Yves Henry, notre invité, extrait de son nouveau disque, proposant une intégrale pleine de poésie des Nocturnes sur piano historique, un Pleyel 1837, qui aurait pu être celui de Chopin. Alors c'est une période très intéressante pour Chopin, et marquée notamment par sa première rencontre avec Georges Sand chez Liszt et Marie Dagout, Yves Henry.
Oui, c'est une rencontre effectivement qui, on le sait par les écrits de l'un et de l'autre, n'a pas été un succès puisque Chopin a écrit à Hiller, son ami pianiste et compositeur, à propos de Georges Sand, quelle femme antipathique. Et de son côté, Georges Sand écrit à une de ses amies, j'ai rencontré Chopin, mais est-ce bien un homme ? Bon, alors on voit que c'est pas
tout de suite bien.
Le C'est pas tout de suite le coup de foudre. Mais néanmoins, ça va ouvrir une époque tout à fait nouvelle dans la vie de Chopin. Et la liaison avec George Sand va petit à petit se construire et débuter, on va dire, dans l'année 1837-1838. Et à partir de là, c'est aussi tout un nouveau cycle de vie de Chopin qui va s'organiser pour tout simplement parce que après le séjour à Majorque, qui a été, comme chacun sait, un peu un désastre pour George Sand, Chopin et les enfants de George Sand qui étaient avec eux, va s'ouvrir la période de Nohant, c'est-à-dire après Majorque, à la fin de l'hiver 1839, après un court repos à Marseille, ils ne vont pas aller à Paris, mais aller directement à Nohant, où ils arrivent le 1er juin 1839. Et là, Chopin, tout d'un coup, va se sentir renaître. C'est formidable parce que George Sand l'évoque très bien dans ses courriers, mais lui aussi, notamment à son grand ami Gzimawa, auquel il dit je pense qu'il a l'impression d'ailleurs d'être à nouveau en Pologne, parce que la campagne autour de Nohant ressemble un peu à la Mazovie natale de Chopin, et il écrit, il y a des oiseaux, il y a tout ce qu'on veut, on n'attend plus que toi, mon ami, parce que il a envie que ses amis viennent aussi à Nohant, et surtout, et c'est là sans doute le plus important pour nous, c'est à Nohant qu'il va commencer à véritablement avoir le temps de composer. À Paris, il avait très peu de temps parce qu'il allait beaucoup à l'opéra, il allait beaucoup dans des salons où on l'attendait, il donnait des leçons. Même si c'était les plus chers de Paris, il en donnait quand même un certain nombre, ce qui faisait qu'il avait assez peu de temps pour lui, pour composer. Et donc à Nohant, quand il arrive le 1er juin 1839, il va avoir la surprise extrêmement agréable pour lui de constater que dans sa chambre au premier étage, George Sand a fait installer, avant même leur arrivée, un grand Pleyel à queue. C'est-à-dire qu'elle a constaté à Majorque que sans Pleyel sous les doigts, il ne pouvait pas composer. Le piano qu'il avait était un mauvais piano majorquin, et il n'a reçu le Pleyel droit qu'il avait demandé qu'on lui envoie, mais il l'a reçu qu'à la fin, et il a composé tout de suite quelques préludes. Mais quand il arrive à Nohant, donc ça va être vraiment une ère incroyable pendant laquelle il va composer presque les deux tiers de son œuvre. Donc entre ce 1er juin 1839 et la fin de l'année 1846, il va passer tous les étés là-bas. Et ce sont pas des étés de deux mois, ce sont des étés qui commencent plutôt à la fin avril et qui se terminent à la fin octobre.
Oui, c'est beaucoup plus long. Et justement, en 1841, ce sont les deux nocturnes de l'opus 48, la période de la maturité, écrivez-vous, Yves-Henri.
Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ça s'entend. Parce que tout d'un coup, dans ces musiques, le souci du beau, et qui a toujours été quand même une des caractéristiques aussi de l'art de Chopin, se mêle à un contenu qui est extrêmement riche d'un point de vue de l'expression. Il y a beaucoup de dramaturgie, en particulier dans l'opus 48 numéro 1, qui est très très célèbre, qui a ce côté, d'abord cette tonalité de do mineur, qui est la tonalité funèbre par excellence, c'est celle de l'élégie de Forêt, c'est celle de l'héroïque de Beethoven. Et donc, ce n'est pas un hasard, et dans le passage central qui est en do majeur, donc la majorisation de la tonalité initiale, une espèce de chorale religieux, un peu comme souvent d'ailleurs chez Chopin, et la première partie revient ensuite, mais avec énormément de variations, avec un caractère complètement différent. C'est là où on se rend compte d'ailleurs que les grands compositeurs sont des génies de la variation, parce qu'entre la première partie, qui est une mélodie assez lente, indiquée l'argot d'ailleurs, et la partie qui revient à la fin mais variée, qui est complètement emportée, qui est deux fois plus rapide, et c'est la même musique, mais tout d'un coup c'est complètement autre chose.
Eh bien, écoutons sous vos doigts, Yves-Henri, ce célébrissime nocturne, opus 48, numéro 1, en do mineur. Thank you. 13e nocturne de Chopin par Yves Henry, extrait de son très beau disque sorti chez Soupir Éditions. Passons maintenant, si vous le voulez bien, Yves Henry, à votre rôle de président de festival. La semaine prochaine, mercredi 11 mars, vous nous donnez rendez-vous à 19h, salle Cortot, pour la soirée de lancement du Nohant Festival Chopin. Une soirée très festive, musicale et littéraire, avec une pléiade d'artistes. Dites-nous, Yves Henry.
Oui, c'est notre traditionnel concert de lancement du festival. Je précise que le festival cette année fête ses 60 ans, donc c'est vraiment une occasion particulière, et que s'y ajoutent aussi les 150 ans de la disparition de Georges Sand. Donc c'est un double anniversaire, et dans cette soirée de lancement du mercredi 11 mars à 19h, on aura aussi bien le violoncelle de Henri de Marquette, accompagné par son fils au piano, donc ça c'est, moi je les ai jamais entendus ensemble, je suis très heureux d'entendre le père et le fils.
La transmission.
Il y aura aussi Camille Fontenot, la violoniste, en duo avec Eliane Reyes, il y aura Gabriel Durlia qui est un formidable jeune pianiste, Nour Ayadi aussi, Clément Lefebvre, dont vous connaissez évidemment le talent exceptionnel.
Bien sûr.
Et puis le trio Georges Sand, qui est un trio féminin, qui est spécialiste vraiment du répertoire des femmes compositeurs, et qui nous fera entendre une pièce tout à fait incroyable, la danse macabre de Saint-Saëns, transcrite pour piano, violon et violoncelle. Vous savez que l'art de la transcription, c'est quelque chose qu'on a vraiment poussé à son maximum à l'époque du romantisme. Et donc, c'est assez curieux d'entendre ça. Et puis, il y aura aussi des textes de Georges Sand et de Chopin, dits par Ulysse Robin et Eugénie Pouillot. Voilà, ça va être, comme vous le disiez, une grande fête autour de la musique qui ne sera pas que de Chopin, puisqu'il y aura aussi un extrait de la Fantastique de Berlioz transcrite par Liszt, il y aura du Brahms, du Scriabine, du Saint-Saëns, du Rameau. Vous voyez, c'est vraiment très diversifié.
Comment peut-on réserver ces places sur le site, je suppose, du Festival de Nohant?
Alors, on peut réserver plutôt par e-mail, oui, ou par téléphone. Le téléphone est le 02 54 48 46 40, et également par e-mail. On peut pas réserver sur place, c'est le petit bémol, mais vous savez, la salle n'est pas très très grande, donc voilà, il faut réserver, et puis on peut aussi prendre ses places en dernière minute quand même.
Mais la salle est idéale, en tout cas, pour le piano et la musique de chambre.
C'est une des meilleures salles de Paris, et dont vous connaissez la phrase célèbre d'Alfred Cortot quand il s'est adressé à l'architecte le jour de la réception de la salle, et il a dit à cet architecte, qui était aussi celui des Théâtres des Champs-Élysées, « Vous m'aviez promis que la salle sonnerait comme un violon, mais vous m'aviez pas dit que ce serait comme un Stradivarius.
» Quelle belle phrase de Cortot.
Oui.
Yves Henry, je ne vais pas vous demander ce matin de nous dévoiler tout le programme du festival, puisque vous le ferez seulement devant le public présent, salle Cortot, mercredi 11 février à 19h, mais pouvez-vous révéler à nos auditeurs quelques temps forts de ce festival qui, comme vous l'avez dit, fêtera son 60e anniversaire et commémorera les 150 ans de la disparition de Georges Sand?
Oui, alors vous avez raison, je peux pas vous dire précisément le programme, mais je peux vous dire plusieurs choses qui, je pense, sont importantes. Tout d'abord que la programmation, et ça c'est un hommage qu'on voulait faire à Georges Sand, va comporter une majorité de femmes artistes sur scène. Donc beaucoup de pianistes femmes, beaucoup de musiciennes femmes, deux quatuors à cordes, les pianistes quand même, je peux vous donner les noms parce que je vous donne pas les dates.
Mais
Elisabeth Leonskaya, Elisovir Saladze, Momo Kodama, voilà, beaucoup de femmes, mais aussi des
remarquables,
hommes, bien
d'ailleurs.
Sûr. Voilà, avec notamment le Grand Prix du Concours Marguerite Long de l'année dernière, Kim Se-young. Il y aura aussi le deuxième Grand Prix du Concours Chopin de Varsovie de l'année dernière, donc Kevin Chen, qui est un pianiste formidable. Et il y aura aussi Paul Lecoq, qui a gagné le prix Clara Askill. Il y aura bien sûr Henri de Marquette, qui joue pour nous à Cortot. Et puis une pianiste italienne aussi, qui vraiment est formidable, qui s'appelle Saskia Giorgini, qui sera là. Enfin voilà, il y a tout un programme vraiment je dirais très éclectique. Les femmes y ont une part vraiment exceptionnelle. Il y aura aussi Eva Poblowska, Akiko Ebi. Et puis on a la création aussi, ça c'est très important, j'y tenais beaucoup à un spectacle littéraire et musical que nous créons spécialement, qui est écrit par Evelyn Love, avec deux comédiennes, deux comédiens, un pianiste, une chanteuse, qui raconte toute la vie de George Sand, et ça va être passionnant, avec tous les personnages bien sûr familiaux, mais aussi les grands personnages qu'elle a côtoyés, avec lesquels elle a vécu, que ce soit bien sûr Liszt, Pauline Gardot, Chopin, Marie Dagou, mais aussi Flaubert, Balzac, voilà, tous ces personnages qui sont passés d'une manière très très importante dans sa vie. Et puis nous avons aussi des conférenciers, nous aurons notamment la grande spécialiste bien sûr de George Sand, qui sera là, Michel Perrault et beaucoup d'autres.
Alors revenons à la musique de chambre. Vous évoquiez tout à l'heure la présence du violoncelliste Henri de Marquette, et notamment il y aura un concert où Henri de Marquette jouera avec le grand pianiste Jean-Frédéric Neuburger, avec un programme Liszt-Rachmaninov et la sonate de Chopin.
Oui, tout à fait, et ça on y tient beaucoup, parce que si Chopin plaçait la voix au-dessus de tout, s'il voulait que le piano chante, il y a un instrument pour lequel il avait une affection particulière, c'est le violoncelle, car le violoncelle, vous le savez, c'est cet instrument qui est le plus proche de la voix humaine. Et le dernier grand chef-d'œuvre de Chopin, celui qui va terminer vraiment en 1848, et qui va d'ailleurs donner en première audition dans son dernier concert parisien, le 16 février 1848, dans les salons de Pleyel, c'est sa sonate pour violoncelle et piano qu'il va composer un peu aussi à quatre mains avec le grand violoncelliste de l'époque qui est son ami, et qui va permettre d'avoir ce chef-d'œuvre assez sans doute même un peu trop novateur pour le public de son époque, puisque Chopin lui-même a dit on va jouer que les deuxième, troisième, quatrième mouvements, pas le premier, parce que c'est trop long et les gens risquent de ne pas comprendre cette musique. Mais aujourd'hui, cette sonate est bien sûr passée au répertoire de tous les grands violoncellistes.
On va écouter le largo de la sonate pour piano et violoncelle de Chopin par Martha Argerich et Mstislav Rostropovitch. C'était la musique de Frédéric Chopin, le largo de la sonate pour piano et violoncelle, avec Martha Argerich et Mstislav Rostropovitch. Honneur aux femmes, aviez-vous dit, Yves-Henri, puisque chaque week-end va être présidé par une personnalité féminine représentant une ou plusieurs facettes de George Sand. Vous avez évoqué l'historienne Michèle Perrault, mais il va y avoir encore beaucoup d'autres femmes, Yves-Henri.
Oui, parce que la personnalité de George Sand était extrêmement riche. Et d'ailleurs, on n'a pas assez de femmes pour représenter toutes ces facettes. Mais outre Michèle Perrault, nous allons avoir une chef étoilée qui est aussi auteur de livres sur la gastronomie, et en particulier sur les recettes de George Sand. Elle s'appelle Marie-Christine Clément. On va avoir une femme qui est une grande voyageuse pour représenter ses voyages que George Sand a fait tout au long de sa vie. Alors, on aura Claudie Aigneret, dont le nom est évidemment familier aux auditeurs, puisqu'elle a été la première spationaute française, elle a été ministre aussi, donc elle représente un peu aussi l'aspect politique. Nous aurons aussi Natacha Polony, qui représentera le côté journaliste, et enfin nous aurons Françoise Petrovitch, qui est une artiste plasticienne, qui a réalisé le carton à partir duquel les tapisseries d'Aubusson sont en train de terminer, une tapisserie en hommage à George Sand, qui fera 25 mètres de long. Voilà, donc ce sont des femmes exceptionnelles qui vont venir partager avec le public, partager avec nous ici à Nohant ces week-ends et ces moments de musique assez incroyables au cœur du Berry.
Autre temps fort en musique de chambre, l'octuor de Félix Mendelssohn par deux ensembles féminins, Yves-Henri.
Oui, et j'ai tenu vraiment à cette œuvre en particulier parce que je trouve que c'est un des chefs-d'œuvre qu'on entend assez peu, mais trop rarement, je trouve, et qui est fascinant pour les auditeurs, parce que c'est une musique vivante, romantique, bien sûr, mais avec un classicisme qui lui donne une espèce de vivacité, mais il y a une profondeur en même temps, c'est étonnant, c'est le génie de Mendelssohn, deux quatuors à cordes féminins, effectivement, le quatuor Aquilone et le quatuor Fidelio, pour ne pas les nommer, qui donneront sur la scène de la Bergerie Auditorium Frédéric Chopin du domaine de George Sand, cet octuor de Mendelssohn, et ça, j'en suis très heureux.
Pour donner envie à nos auditeurs, écoutons le final par l'octuor de Vienne réuni autour de Willy Boskovski. Thank you. C'était L'Octuor de Mendelssohn, son final, par L'Octuor de Vienne. Une pièce qui sera interprétée par deux ensembles féminins, les quatuors Aquilon et Fidelio, lors de votre festival cet été que vous organisez à Nohant, cher Yvan Ry. Parlez-nous maintenant, Yvan Ry, de ce grand événement, le nouveau concours international de piano Chopin Pleyel à Nohant, du 15 au 23 août.
Oui, alors tout à l'heure, vous avez d'ailleurs passé un enregistrement de Marta Argerich avec Mislav Rostropovitch. Et ce concours que nous créons avec le Centre des Monuments Nationaux et les Pianos Pleyel, eh bien, il est justement marrainé, on peut dire, par Marta Argerich, qui aime beaucoup Nohant et qui est venue y jouer à deux reprises déjà. Elle sera pas avec nous, mais par le cœur, elle sera, et je pense que c'est important de le dire, parce que c'est une caution incroyable, bien sûr. Alors, ce concours, il est dédié, et ça c'est très important, à la musique que Chopin a composé à Nohant. Donc c'est un concours international, bien sûr, de la musique de Chopin, bien sûr, mais qui est en quelque sorte réalisé à l'endroit même où les œuvres qui vont être jouées ont été composées. Et ça, ça a un caractère exceptionnel, parce que pour ces jeunes du monde entier qui vont venir, il y a une sorte d'enjeu qui dépasse celui d'une compétition habituelle, parce que le lieu est historiquement très fort, et aussi parce que sur la scène où ils vont jouer, ont joué déjà les plus grands pianistes, parce que depuis les débuts du festival sont venus tous les plus grands pianistes, de Rubinstein au début à Saint-François, en passant par Kissin et tous les plus grands. Donc il y a une sorte d'émulation assez incroyable, et ce concours va se dérouler en finalement une petite dizaine de jours à peine. Vous l'avez dit, à partir du 15 août, ce sera la cérémonie d'ouverture, avec une coïncidence incroyable, c'est que le 15 août, c'est aussi la date anniversaire de la naissance d'Aldo Ciccolini, dont vous l'avez rappelé tout à l'heure, il a été à l'origine du festival à Nohant. Donc il y a là quelque chose comme un clin d'œil, un signe important, et que je prends comme un signe positif. L'autre signe positif, c'est que pour les épreuves qui vont se dérouler donc du dimanche 16 août au dimanche 23 août, eh bien nous avons réuni une pléiade de jeunes talents du monde entier. Imaginez, il y en a qui viennent d'Australie, de Chine, de Corée, bien sûr, des États-Unis, du Canada, de France, heureusement, bien sûr, d'Italie, d'Espagne, du Mexique, enfin c'est incroyable. Et donc on communiquera le 11 mars prochain, lors de notre soirée de lancement à Corto, la liste des 24 candidats qui seront admis à concourir à Nohant et qui auront le privilège de pour ceux qui atteindront la finale. Il y en a 24 qui vont être admis à concourir, 12 qui iront en seconde épreuve et 6 qui iront en finale, qui auront la chance de jouer un concerto de Chopin, un des deux concertos, avec l'orchestre de chambre royale de Wallonie dirigé par Vardan Mardi-Rossian. Donc je crois que ça va être une très très belle fête autour de Chopin et quelque chose de nouveau à Nohant qui, je pense, réunit aussi un jury assez prestigieux, puisqu'il y a à la fois Akiko Ebi, Eva Poblowska, Boris Berman qui vient de Yale aux États-Unis, il y a Dan Van Veil qui est le chef du département des pianos de l'université de Pékin, donc du conservatoire central de Pékin, et il y a Bruno Rigouto qui est un fidèle de Nohant depuis l'origine pratiquement. Il était jeune soliste lui dans les éditions des années 1968-9, je crois me souvenir. Et puis, il y aura également Reina Cherechevskaya et moi-même pour ce jury, voilà, qui va écouter avec beaucoup d'attention, beaucoup de passion, ces jeunes venus du monde entier.
Formidable, en tout cas, Yves Henry. Alors, détail pratique, comment réserver ses places pour le festival et pour le concours ?
Alors, pour le festival, c'est assez simple, et d'ailleurs pour le concours aussi, puisque là, tout peut se passer, en tout cas dans un premier temps, par Internet. Une fois que nous aurons passé le 11 mars, puisqu'on aura communiqué le programme du festival, on pourra réserver en ligne le site festivalnohant.com, tout simplement. On pourra réserver ensuite également par courrier, par téléphone, tout ça avec l'office de tourisme de La Châtre. Et puis, ça sera la même procédure pour le concours, mais décalé de 2 mois, parce que le concours est en août, alors que le festival commence en juin. Donc on mettra les places en vente pour le concours un peu plus tard. Sachez que le concours sera aussi en direct, bien sûr, sur Internet, puisque comme il y aura des candidats venant de si loin, on veut aussi que leurs propres compatriotes puissent les écouter, suivre leur cheminement dans ce concours.
Où se situe le domaine de Nohant et comment y accéder, Yves Henry ?
Alors, le domaine de Nohant, donc, qui est géré par le Centre des Monuments Nationaux, qui est notre principal partenaire d'ailleurs, se situe en plein cœur de la France, on peut dire presque au centre géographique. Il est à 30 km au sud de Châteauroux, sud-est de Châteauroux. Il est à 70 km de Bourges. Donc, c'est à 300 km de Paris. Et comme disait la grand-mère de George Sand, qui a acheté cette maison dans les années à la fin du 18e siècle, au moment de la Révolution, elle cherchait quelque chose de pas trop loin de Paris, mais un peu à l'écart quand même. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est pas très loin de Paris, mais c'est toujours un peu à l'écart. Et c'est aussi ce qui fait une grande partie du charme de cette région, c'est d'être resté assez préservé.
Avant de se quitter, Yves Henry, revenons à votre nouveau disque consacré aux Nocturnes de Chopin. La dernière pièce, l'une des plus jouées au monde de Chopin, est intitulée « Lento con grande espressione ». Et elle n'est pas titrée étude comme les 20 autres. Pourquoi, Yves Henry ?
C'est une histoire très particulière et qui est très touchante à la fois. Et si beaucoup d'artistes jouent cette pièce en bis, souvent dans les concerts, c'est parce qu'elle a une sorte d'élévation incroyable qui est due au fait que cette pièce, d'abord, nous n'aurions pas dû la connaître car Chopin voulait qu'elle soit détruite à sa mort, mais son fidèle secrétaire Fontana s'est refusé à le faire et l'a bien fait. Et pourquoi Chopin voulait-il que cette pièce ne soit pas conservée ou éditée ? Tout simplement parce qu'il l'avait composée pour sa sœur. Et pour sa sœur qui jouait du piano, mais voilà, en amateur, et qui n'avait pas des gros moyens. Donc c'est une pièce qui a une simplicité de jeu qui la rend abordable à tous. Mais, et c'est là le miracle de la musique, un des miracles de la musique, ce n'est pas parce qu'une musique est très simple qu'elle ne vous touche pas. Quelquefois, c'est même l'inverse. Et celle-ci est tellement touchante, à la fois probablement aussi parce qu'il l'a écrite pour sa sœur, on doit le ressentir quelque part, mais aussi parce que cette simplicité qu'elle a vous touche directement. Et je crois que c'est un des chefs-d'œuvre de Chopin les plus simples dans leur présentation, mais aussi les plus touchants.
En tout cas, c'est une pièce d'une très grande beauté qui fait chanter votre piano, Yves Henry.
Oui, et puis on est revenu, je dirais, à l'essence même du nocturne, c'est-à-dire simplement une mélodie Et un accompagnement d'une très grande simplicité. On peut dire, là, il n'y a aucun contrepoint, il n'y a aucune science de recherche de complexité d'écriture. Tout va vers la simplicité, mais c'est aussi ça qui nous touche.
Écoutons cette pièce si simple et si belle. La musique merveilleuse de Chopin, sous les doigts de notre invité, le pianiste Yves Henry, un extrait de son double album paru chez Soupir Éditions, qui vous fera faire un magnifique voyage au cœur des 21 nocturnes. Merci beaucoup Yves Henry.
Merci.
Bonne journée et je vous souhaite naturellement un très beau Nohant Chopin Festival.
Merci à vous et moi je vous envoie un rayon de soleil depuis Nohant parce que je suis dans la région et en train de préparer justement tous ces événements.
Quelle chance vous avez, Yves Henry.
Oui, j'en suis conscient, d'ailleurs.
À très vite. Et merci encore pour ce passionnant entretien. Je vous donne rendez-vous demain dimanche à 11h. Merci à Francky à la technique. Et d'ici là, restez à l'écoute des programmes de IDFM Radio.